Drôle d'histoire. Karine Delphini.
Bonsoir. Aucune forme d'art ne peut donner d'émotion s'il ne s'y mêle pas une part de réel. Si infime qu'elle soit, si impalpable, cette allusion, cette parcelle irréductible, est comme la clé de l'œuvre. Elle la rend lisible, elle en éclaire le sens, elle ouvre sa réalité profonde, essentielle, à la sensibilité qui est l'intelligence véritable. Une pensée de Jean Fautrier. Le thème est donné, l'art, la peinture, la sculpture, par le biais de portraits, de contes et de poésie. Jean-Claude Gailly m'accompagne en régie. Les chansons ont été choisies par Stéphanie Jovanovic. Alors partons ensemble avec Salomé Leclerc. Ensemble, Salomé Leclerc. L'art, c'est la contemplation, c'est le plaisir de l'esprit qui pénètre la nature et qui y devine l'esprit dont elle est animée. Une pensée d'Auguste Rodin. Et on va lui consacrer un moment et il y a même de la place pour celle qui fut l'une de ses maîtresses, Camille Claudel. Leur histoire n'aura pas été de tout repos, elle aura eu des conséquences, disons, dévastatrices sur la vie de Camille.
Thank you.
Auguste Rodin est né en 1840 à Paris, d'une famille rurale et modeste. Et enfant, quand on lui demande ce qu'il aimerait faire plus tard comme métier, il n'a pas la moindre hésitation. Il répond avec la plus grande conviction qu'il sera artiste. Artiste peintre et sculpteur. Pour lui, c'était vraiment une vocation. Après une scolarité chaotique, parce que c'est un mauvais élève, absolument pas intéressé par les études, Auguste Rodin se présente, à l'âge de 18 ans, au concours d'entrée des Beaux-Arts. Mais là, il échoue et il est recalé. Et s'il accepte très mal cet échec, il ne renonce pas pour autant à sa carrière artistique et il décide donc de se former tout seul, en autodidacte. Ses premières années de sculpteur, mais aussi de dessinateur et d'aquarelliste, sont plutôt difficiles, ses œuvres n'intéressent personne et franchement, il a de la peine à gagner sa vie. C'est seulement à l'âge de 34 ans que la vente providentielle d'une de ses petites sculptures lui rapporte un petit peu d'argent et avec cet argent, il décide d'effectuer un séjour en Italie. Et à Rome, il découvre entre autres les œuvres du sculpteur Donatello. À Florence, il peut admirer de tout près les tableaux de Michel-Ange. Et là, c'est la révélation. Inspiré par ces deux immenses artistes, Rodin rentre à Paris, modifie sa façon de peindre et de sculpter, et il connaît enfin le succès. Quant à Camille Claudel, elle est née en 1864, à Ferrand-Tardenois, une bourgade proche de la ville de Reims. Fille aînée, Camille a une sœur et un frère, et ce frère, prénommé Paul, deviendra le célèbre écrivain que l'on sait. Dès son plus jeune âge, la petite Camille, très manuelle, s'intéresse à la sculpture et, sitôt qu'on lui laisse un moment de libre, elle s'amuse à pétrir la glaise. Ce qui fait le désespoir de sa mère. Madame Claudel supporte très mal que sa fille aînée soit toujours sale et couverte de terre. Et comme la fillette a en plus un caractère très affirmé, qu'elle n'obéit pas, qu'elle se montre paresseuse à l'école, Madame Claudel va carrément se mettre à la détester. Par contre, son père, lui, il l'adore. Et lorsqu'à l'adolescence, Camille annonce qu'elle veut devenir sculpteur, au lieu d'en être catastrophée, parce qu'au XIXe siècle, une femme sculpteur, c'était quasiment inconcevable, et bien, au lieu d'être catastrophée par la décision de sa fille, Monsieur Claudel fait déménager toute sa famille à Paris afin que Camille puisse suivre des cours dans une prestigieuse académie artistique de la capitale. Ouvert et tolérant, Monsieur Claudel. Bon, du moins à ce moment-là. Camille, donc, a à peine 17 ans lorsque, à Paris, elle présente une de ses sculptures au directeur de l'École nationale des beaux-arts. Il est tellement stupéfait par son talent qu'il s'exclame « Mais ce n'est pas possible! Pour posséder autant de maîtrise, vous avez dû prendre des cours chez Monsieur Rodin !» Mais non, à ce moment-là, Camille Claudel ne connaît pas encore Auguste Rodin. Bon, elle le connaît de réputation, elle sait qu'il est un sculpteur renommé, mais elle ne l'a jamais rencontré. Et pourtant, curieusement, la manière de sculpter de la jeune fille est déjà proche de celle de Rodin. Rodin qui va effectivement, 2 ans plus tard, devenir son professeur. Camille Claudel a 19 ans quand elle rencontre pour la première fois Auguste Rodin. Elle est alors une jeune fille fougueuse, passionnée, d'une grande beauté. Le regard sombre et fier, la bouche sensuelle, les cheveux en bataille. Il émane de tout son être un immense appétit de vivre et de créer. Et dans le milieu artistique de l'époque, tout le monde s'accorde à la trouver fascinante. Auguste Rodin, lui, a 44 ans. N'est pas vraiment bel homme. Loin de là, même. Ses amis le surnomment même le bouc roux ou le vieux faune. Barbu, ventripotent et myope, il n'est pas beau, mais il dégage une sorte d'aura qui le rend tout de même attirant. Et il est doté également d'une force physique qui fascine particulièrement les femmes. D'ailleurs, il collectionne les maîtresses, il est considéré comme un sacré trousseur de jupons. Et très vite, entre l'élève et le maître, entre Camille Claudel et Auguste Rodin, entre ces deux êtres que tout sépare. sauf leur passion commune pour la sculpture. C'est l'amour fou, un amour inexplicable, irraisonné, et qui provoque un énorme scandale. Enfin, c'est surtout Camille qu'on considère comme scandaleuse. On l'a déjà dit, dans cette bourgeoise société de la fin du 19e siècle, une femme qui fait de la sculpture, ce n'est absolument pas courant et c'est donc tout à fait choquant. Camille est par conséquent confrontée à la réprobation des bien-pensants. En plus, comme tous les autres élèves de Rodin sont des hommes, qu'elle est la seule fille, elle subit sans cesse les plaisanteries graveleuses qu'échangent ses collègues quand ils la voient sculptée face à un modèle masculin entièrement nu. Et puis si on considère que sa conduite est scandaleuse, c'est aussi parce qu'à une époque où la femme n'a pas d'autre choix que le mariage ou le couvent, Camille affiche ouvertement sa passion pour son professeur, un homme qui a l'âge d'être son père. Mais si au moins elle se cachait, mais non, la jeune fille ose clamer à la face du monde son amour pour Rodin. Au début de la rencontre entre Camille et Auguste, la famille de Camille est plutôt flattée que la jeune fille puisse travailler avec un artiste aussi célèbre que ce monsieur Rodin. Personne ne peut imaginer la tournure que vont prendre les événements. Faut dire que ce qui rassure à ce moment-là la famille de Camille, c'est que quand celle-ci invite parfois son professeur à venir manger à la maison, Auguste Rodin arrive toujours en compagnie de Rose Beuret, sa maîtresse officielle. Alors en le voyant toujours avec cette femme, qui a le même âge que lui, Monsieur et Madame Claudel n'arrivent absolument pas à imaginer que le sculpteur puisse aussi entretenir une relation amoureuse avec leur fille. Par contre, Rose Beuret, elle comprend immédiatement que Camille est devenue la maîtresse de Rodin, et que c'est par conséquent une rivale. Mais Rose est tellement éprise de son grand homme que pour ne pas le perdre, elle se tait, elle accepte de le partager. Alors le jour où monsieur et madame Claudel découvrent enfin que leur fille est la seconde maîtresse officielle de Rodin, ils prennent très, 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 très mal la chose. Surtout madame Claudel. Pour elle, Camille, c'est carrément la honte de la famille. Pareil à leur mère, le frère et la sœur de Camille trouvent également que son comportement est tout à fait honteux. Quand on perd, tout en étant tout de même choqué de la liaison de sa fille aînée, il ne la rejette pas. Il accepte de continuer à la voir. Et plus tard, quand Camille connaîtra la misère, son père tentera même pendant un certain temps de l'aider financièrement, afin qu'elle ne meure pas de faim. La passion de Camille Claudel et d'Auguste Rodin va durer 10 ans. Et durant ces 10 années, Camille donne tout à Auguste. Son amour, sa jeunesse et son art. Pour lui, elle taille le marbre, participe activement aux créations du grand artiste. Elle est à la fois son ouvrière, mais aussi son modèle, son inspiratrice. Mais pendant ce temps, elle travaille très peu pour elle-même, parce qu'elle est vraiment tout occupée à servir l'œuvre de Rodin. Elle qui désirait tellement être une femme sculpteur reconnue, la voilà devenue simplement la collaboratrice de son génie d'amant. Camille considère de plus en plus cette situation comme un échec artistique et elle le vit de plus en plus mal. L'échec de sa propre carrière est d'autant plus difficile à vivre qu'il se double d'un échec sentimental. Parce que Rodin ne lui appartient pas complètement, puisque malgré son insistance, il refuse de se séparer de son autre et fidèle maîtresse, Rose Beuret. Les souffrances, les scènes de jalousie s'accumulent et alors peu à peu, l'amour de Camille se transforme en haine. Elle accuse souvent Rodin de lui avoir tout pris. Mais c'est surtout quand elle se retrouve enceinte, qu'il l'oblige à avorter, qu'elle se met définitivement à le haïr aussi férocement qu'elle l'avait aimé. C'est en 1895 que Camille Claudel, qui a alors 31 ans, commence à échapper petit à petit à l'emprise de Rodin, avec qui elle rompt définitivement 3 ans plus tard. Et c'est aussi durant ces 3 années, entre 1895 et 1898, que Camille est la plus productive. Elle crée beaucoup, mais malgré ses efforts désespérés pour présenter des sculptures originales, on continue à dire qu'elle fait simplement du rodin. La reconnaissance ne vient pas, sa carrière ne décolle absolument pas, piétine, et la jeune femme se met alors à douter d'elle. Camille se sent trahie, spoliée, humiliée par celui dont elle clame maintenant qu'il lui a volé son talent et sa vie. Elle se replie de plus en plus sur elle-même, le sentiment d'injustice devient obsessionnel, se transforme en névrose. Et 10 ans après sa rupture avec Rodin, la superbe jeune femme n'est plus qu'une dame aigrie, bouffie, hystérique, une alcoolique qui vit seule avec ses chats dans un désordre, une saleté indescriptible. En 1913, Camille a 48 ans quand sa famille demande son internement dans un asile d'aliénés, où elle restera enfermée pendant 30 ans jusqu'à sa mort en 1943. Quant à Rodin, après 52 ans de vie commune avec Rose Beret, il a fini par l'épouser en janvier 1917. Lui, il avait à ce moment-là 77 ans et elle 73. Mais un mois après leur mariage, Rose Beret décède et Rodin ne lui survivra pas longtemps puisqu'il s'éteint à son tour, quelques mois plus tard, le 17 novembre de cette année 1917. Dans les dernières semaines qui ont précédé sa mort, il paraît que Rodin ne cessait de réclamer son épouse, mais quand on prononçait le nom de Rose Beret, il hurlait « Non, non, pas elle, ma femme, celle qui est restée à Paris !» 20 ans après leur séparation dramatique, Auguste Rodin pensait toujours à Camille Claudel.
D'histoire.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just what you sow.
drôle d'histoire.
Depuis que j'ai croisé dans l'escalier du métro aérien le sourire enfantin aux lèvres d'une beauté printanière, que la flèche de son regard moqueur s'est plantée dans le mien, coup de foudre assassin en plein cœur, m'envoie tout droit au septième ciel, où l'amour fou m'a donné rendez-vous en haut de la tour Eiffel. Vertige amoureux, baisers qui s'envolent sur les ailes du vent, serments éternels gravés dans le bleu du ciel. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. Mais y'a de ça. La petite boule bleue qui nuit et jour tourne autour du soleil, jour et nuit moi je veille sur les étoiles qui brillent dans tes yeux. Sans poser les pieds au sol, on peut faire tous les tours qu'on veut sur le grand manège amoureux qui nous emmène au septième ciel. Cheveux au vent, battant les ailes dans les courants ascensionnels, le givre et le gel, la neige et la grêle fondent en pleurs devant nos aveux gravés dans le bleu du ciel. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. Mais y'a de ça.
Foudre, Jacques Higelin. Dans la peinture, il s'établit comme un pont mystérieux entre l'âme des personnages et celle du spectateur. Dixit Eugène Delacroix. Depuis quelques jours, je vous lis des portraits des Dames d'Égypte, livre de Jean-Christophe Dufond-Doris aux éditions Julliard. Là, il s'agit d'un récit érotique, où il est question de peinture, puisque ce soir, l'art occupe une place de choix dans nos histoires. Et comme on va prendre directement au milieu du récit, je vais vous résumer le début, vous situer la chose. Nous avons un jeune artiste, Camille Puteaux, peintre parisien, qui a une mission, peindre six belles jeunes femmes. Pourquoi, pour qui, comment? En fait, le marchand copte Joshua El Mahadi, qui admire beaucoup ses peintures, lui a commandé un travail personnel. Comme il a quelques ennuis financiers, il a fait une sorte de deal avec un marchand syrien. En échange de l'une de ses filles, fille de Joshua, cet autre homme est prêt à abandonner certaines créances. Mais quand même, il n'est pas vraiment convaincu à 100%. Alors le copte Joshua El Mahadi aimerait que le peintre saisisse la beauté de ses filles, la rende sur un tableau, qu'il pourrait alors envoyer à ce marchand pour le convaincre. donc un portrait groupé de ses filles. Et vous allez voir que les séances vont être charnelles. Au début, le peintre Camille dessina dans l'euphorie, hachant à grands coups de poignet sa toile de balafre noire. Les six filles du copte étaient charmantes. Elles s'en allaient s'asseoir à l'opposé de lui, à même le tapis. Les plus jeunes appuyaient leur tête sur les genoux des aînés. Nul ne parlait jamais, et dans le silence étouffant, on n'entendait que le vrombissement des mouches et le choc des pinceaux rincés dans leurs gobelets d'argent. Mais ils ne parvenaient pas à peindre. Si ce n'était ce voile sur leur visage, les jeunes femmes étaient presque nues. Les jambes et les pieds découverts, des bracelets à leurs chevilles, une simple chemise de soie flottante, serrée à la taille par une ceinture. Elles s'efforçaient de conserver la pose, mais les unes étouffaient des fous rires, les autres l'espionnaient par-dessous leurs longs cils. L'aînée, couchée sur les coups fins, hanches saillantes et jambes interminables, fixait sur lui ses grands yeux noirs luisants comme du charbon cassé. Tant d'impudeur, de naïveté, d'innocence et de provocation bouleversaient Camille jusqu'au fond de l'âme, le laissait désemparé devant son chevalet. Comment peindre cela ? Se demandait-il en constatant l'impuissance de ces mélanges. Quelle poudre et quelle épice ? Quelle substance ? Jour après jour, son trouble grandissait, car les jolis modèles semblaient prendre plaisir à enflammer le peintre. Les poses n'étaient plus tenues, les chemisiers bâillaient sur de tendres poitrines, les jambes se croisaient, se décroisaient sans cesse. La mousseline collait volontiers aux formes rebondies des fesses. Tout se faisait langueur, moiteur, épuisement. Et c'était cela, il le sentait, qu'il devait peindre, cette sensualité humide et chaude qui flottait dans la pièce, ce désir grandissant. Il s'efforçait de se laisser aller, casser des barrières, d'ouvrir à son esprit de belles chevauchées. Des images lui fouettaient le sang, corps dénudés, audacieuses postures. Mais quant au rire des filles, qu'il retombait sur terre, qu'il les retrouvait là, pouffant derrière le voile et se poussant du coude, fasciné par la belle bosse de son pantalon, c'était pour constater qu'il n'avait toujours pas d'inspiration. Un après-midi de canicule, alors qu'un vent chaud entrait en sifflant par les dentelures des balcons, les pans de la robe de l'aîné se soulevèrent jusqu'à ses hanches. Camille admira la peau brune, dorée, la chair tiède de brioche au milieu de la soie blanche. La fille se tint bien droite, l'œil fixé sur le sien. Elle n'esquissa aucun geste pour dissimuler sa nudité. Bien plus, il lui sembla qu'elle écartait un peu les jambes, cambrait les reins, dévoilait davantage. Tout en haut de ses cuisses fuselées, une ombre épaisse et duveteuse qui le fit chanceler. Quelques secondes délicieuses s'écrasèrent autour d'eux dans l'attente d'autres vertiges. Une cadette souleva à son tour ses voiles. Une autre ouvrit sa chemise et glissa la main, commença doucement à se caresser la pointe d'un sein. L'air devenait trop chaud, sucré, comme du thé à la menthe. Il lui fallut le siroter à petite lampée pour ne pas se brûler la langue. Camille défaillait. N'était-ce pas toutes les dames d'Égypte, toutes ces dames qu'il avait aimées, cajolées au bout de ses pinceaux, qui se dénudaient ainsi devant lui ? Son sexe était tendu à lui faire mal. La lumière se déversait dans la salle, aussi puissante qu'un torrent. Sans trop le vouloir, sans trop lutter non plus, Camille laissa sa main s'en aller vers l'étoffe, défaire en un les boutons et libérer à l'air libre son sexe gorgé de sang. Les filles n'osaient plus respirer. Leurs mains s'égaraient aussi. Les masques avaient glissé, révélant des joues rouges, de grands yeux affolés, des cils qui se débattaient. des lèvres fines qu'on devinait mouillées, luisantes dans le contre-jour. Les chemisiers se soulevaient au rythme des cœurs emballés, et les robes faisaient de même à la cadence sourde des mains accomplissant de souterraines besognes. Il céda le premier, dans un cri d'amour étouffé, en hommage à toutes ces dames peintes qu'il avait désirées. Et au moment où il lâcha sa semence, traînée blanche, belle comme l'éclair, lumineuse fusée d'artifice, qui vint mourir au milieu des tubes ouverts sur sa palette, d'autres cris de triomphe et de délivrance jaillirent des jeunes poitrines. Et puis les filles avaient repris la pose, et le peintre, caché derrière son chevalet, mélangeait furieusement ses couleurs à une substance nouvelle. Merveilleux ! Dit le copte en contemplant le portrait de ses filles. Par quel miracle avez-vous donné ce lustre aux épaules, ce velouté aux gorges ? Le tableau dégage une sorte de magnétisme, il évoque je ne sais quelle extase. Vous êtes un magicien, vraiment, nul doute que le Syrien va tomber sous le charme. Et Camille, hébété, devait bien en convenir. Il avait touché au but, il avait découvert le secret, le merveilleux secret. Les filles du copte vibraient sur la toile, brillaient comme Vénus, l'étoile d'Isis. Elles avaient cette douceur et cette cruauté, cette faiblesse et cette force, cette vérité et cette invraisemblance de toutes les femmes qu'il avait connues. Sa peinture tutoyait les sommets. Il tomba à genoux et se mit à pleurer. Cette toile serait sa dernière, celle de son apothéose. Et désormais, il ne pourrait faire mieux. Alors le soir même, il brûla ses pinceaux, ses toiles vierges et ses chevalets, et il disparut, se fondit dans la foule, se laissa emporter par toutes ces dames qu'il avait peintes au cours de ces années et qui étaient désormais siennes. « Maudit sois-tu » dit le Syrien furieux après avoir déchiré le papier qui recouvrait la toile. « Te moques-tu de moi, le copte ? Je ne supporterai pas un tel affront. Quant à ton peintre, ce Camille Puteau, il regrettera d'avoir participé à cette mauvaise plaisanterie. » Et de rage, il envoya le tableau aux pieds du copte Joshua abasourdi. Ce fut en regardant le portrait que le copte comprit. Depuis que le Français l'avait peinte, qu'il l'avait lui-même emballée. Plusieurs semaines avaient passé et la toile avait changé. Ses filles étaient toujours jolies, mais sous leur mousseline, leur ventre rebondi ne laissait place à aucun doute. Toutes les six, elles étaient enceintes. Places where we dare not. Good Intent par Kimbra sur la première. On veut sculpter une personne vivante, mais ce qui la rend vivante, c'est en fait son regard. Tout le reste n'est que l'encadrement du regard. Alberto Giacometti. Et dans les contes philosophiques du monde entier de Jean-Claude Carrière aux éditions Plon, le regard de la statue sera bienveillant. La tête restituée, c'est le titre du conte. On raconte qu'un jour, en 1992, un homme que personne ne connaissait se présenta à l'hôtel Drouot à Paris, alors que s'ouvrait une vente d'art oriental, fourre-tout habituel d'objets de valeurs diverses, venant d'un peu partout, de l'Égypte à la Corée. Les commissaires, la veille, avaient vu cet homme, lors de l'exposition de ces objets, qui précèdent toujours la vente. Il allait d'une vitrine à l'autre, s'arrêtant plus longuement, plus attentivement sur des fragments de sculptures indiennes, ne demandant aucune information aux appariteurs. Au cours de la vente, il leva le doigt au numéro 56, qui était intitulé « Tête de divinité féminine, Inde, 8e, 13e siècle ». Et il lança d'une voix faible une première enchère qui fut couverte par la table. Il lança une deuxième enchère qui fut couverte par quelqu'un dans la salle. Et à la troisième enchère, il l'emporta. L'objet lui fut adjugé à un prix raisonnable. Sans attendre la fin de la vente, il se leva, régla sa facture et emporta la tête indienne dans un sac en matière plastique qu'il tenait jusque-là roulé dans une de ses poches. Et il rentra chez lui en autobus. Il vivait dans un modeste deux pièces à Courbevoie, près de Paris. À voir cet homme, on pouvait le prendre pour un professeur ou un employé, aux épaules déjà voûtées, à la démarche rapide et un peu sautillante, cheveux clairsemés. On lui donnait de 40 à 50 ans, mais à vrai dire, personne ne s'interrogeait sur son âge. Il parlait rarement à ses voisins. Il portait des lunettes. Il posa le sac sur une table, tira la tête avec précaution, la posa devant lui et la regarda. Il s'agissait sans aucun doute, comme l'indiquait le catalogue, d'un visage de femme. Vaguement souriant, portant un bandeau de perles sur le sommet du crâne et offrant encore, comme disait le catalogue, des traces de polychromie. Comme beaucoup d'autres, elle avait été arrachée de son support à coups de pique ou de marteau au XIXe siècle, peut-être même au XXe, et vendu clandestinement au hasard des circuits obscurs qui dévalisent depuis toujours la beauté du monde. L'homme ouvrit quelques livres, un dossier qui contenait des fiches avec indications et photographies. Cherchant à vérifier les renseignements sommaires que fournissait le catalogue, il réussit à mieux préciser l'origine de la tête coupée. Il en examina le style, la patine, se livra à des comparaisons attentives, et il en conclut que la tête devait appartenir à un temple du Tamil Nadu, un état du sud-est de l'Inde. Quelques mois plus tard, l'homme s'embarqua à bord d'un avion d'une compagnie népalaise, changea d'avion à Stuttgart et puis à Katmandou avant d'atterrir enfin à Chennai. Et peu fortuné, il voyageait dans les conditions les plus économiques possibles en gardant constamment la tête de pierre avec lui, dans un sac. De Chennai, il prit un autocar populaire qui le conduisit à Madurai, dans le sud de l'État. Et là, il loua une vieille bicyclette au squelette fragile et commença ses recherches. L'intention était simple, il voulait rendre la tête au corps d'où on l'avait volée. Il désirait, lui, humble citoyen français, faire un geste, si insignifiant qu'il pût paraître, pour lutter contre l'immense spoliation dont les temples du sud de l'Inde avaient été victimes depuis des siècles. En choisissant de n'importer que les têtes pour les revendre, les voleurs avaient probablement décapité des centaines de milliers de statues. Et il voulait reconstituer l'une d'elles. Il voulait être sûr qu'il avait vécu pour accomplir au moins une bonne action sur cette terre, une action juste et indiscutable. lui en serait-il tenu compte dans un autre monde, une autre vie? Apparemment, il n'y pensait pas, son action était désintéressée. Il se mit en route, lentement sur sa bicyclette plaintive, la tête coupée, enveloppée d'une étoffe et bien attachée sur le porte-bagages. Il s'arrêtait dans chaque temple, qu'il fût médiocre ou grandiose, examinait attentivement les statues. La plupart d'entre elles, assassinées par les pillards, n'avaient plus de tête. Il éliminait les effigies d'hommes, qu'il reconnaissait facilement, pour ne s'attacher qu'aux silhouettes féminines. Et souvent, un simple coup d'œil lui suffisait. Les dimensions, les styles ne correspondaient pas. Et parfois, quand il avait un doute, il grimpait sur un mur, ou bien même il empruntait une échelle à des ouvriers pour essayer de mettre la tête en place. Il examina ainsi des centaines, peut-être des milliers d'emplacements possibles. Vivant de peu, dormant le plus souvent la belle étoile, attaché par une ficelle à sa bicyclette, il mangeait presque uniquement du riz, quelques fruits qu'il dérobait aux arbres. Petit, maigre, brun, il échangea assez vite ses vêtements européens pour un pagne, une vague chemise et des sandales. Il laissa pousser sa barbe, qui était poivre et sel, et finit par passer inaperçue. Le jour où, après plus de 7 mois de recherche incessante, il trouva enfin le corps qui correspondait exactement à sa tête, il connut la joie de sa vie. Il ferma les yeux, s'agrippa à la muraille et pensa qu'il s'évanouissait. Tout était juste, la dimension, les aspérités de la brisure, même les restes de couleur. Cela se passait à Tiruchirappalli, autrement appelé Trichy, dans une des enceintes de l'immense temple de Ranganatha Swami, qui est dédié au dieu Vishnu. Passant avec son visage bronzé pour un pèlerin indien, il avait réussi à s'introduire dans les enceintes interdites aux non-hindous, malgré la vigilance des surveillants. Après sa trouvaille, il parvint même à se cacher dans un recoin du toit et à dormir là. Son entreprise de restitution touchait à sa fin. Il se procura une petite lime, un peu de ciment frais, une spatule, et travaillant la nuit, il remit la tête en place. Il le fit très habilement, si bien qu'à 3 ou 4 mètres de distance, on ne pouvait pas deviner le raccord. La statue féminine, une apsara qui tenait dans sa main droite une feuille de palmier sculptée, était à présent la seule intacte au milieu de ses sœurs mutilées. Légèrement souriante, gracieuse, un pied soulevé dans une attitude traditionnelle, elle regardait partout et nulle part. Elle était de retour. Et l'homme, quand il eut terminé, s'assit sur le sol en face d'elle et ne bougea plus. De temps à autre, il se levait pour aller se laver ou pour manger un peu, puis il revenait prendre sa place. Était-il heureux ou simplement satisfait? Personne n'aurait pu le dire. Pauvre en tout cas. Très pauvre. Des pèlerins et des touristes passaient sans cesse autour de lui. Et un jour, il sentit quelque chose tomber dans le creux de sa main. Il regarda, c'était une pièce de monnaie qu'un visiteur venait de laisser là, prenant l'homme pour un mendiant. Il leva la tête vers la statue et il vit très distinctement qu'elle lui souriait. Il ouvrit plus largement sa main et même il la tendit devant lui. Plusieurs autres pièces y tombèrent et même un billet d'une roupie. Là-haut, la statue de l'apsara lui souriait toujours. Et l'homme comprit qu'il venait de trouver une place où finir ses jours. Et il le prit pour une récompense.
Night, oh night, there is a bright, bright light. Lightning up your sky, sets the hill on fire. Burns, burns, yearns for no reason why. Oh my, oh my, only one is on fire. The fire, the hungry fire, is devouring its way to the old, old chapel. It expands for no reason why. Oh my, all you want is on fire.
The Letter par Fiona Daniel. Faites toujours que votre tableau soit une ouverture au monde, Léonard de Vinci. Devant la nature elle-même, c'est notre imagination qui fait le tableau, Paul Gauguin. Et c'est vrai que la nature nous invite souvent à la rêverie, elle nous épate, elle nous bouleverse. Et dans le district du Jura noir vaudois se trouve la commune de Chamblon. Et à Chamblon se dresse un très beau rocher. À le regarder, à le contempler de tous côtés, on lui voit un visage, et puis un autre, et encore un autre. Un petit nez en trompette, une bouche ouverte, des yeux qui semblent regarder le ciel, peut-être l'implorer. Et selon les couleurs du paysage, la lumière du jour et de la nuit, eh bien, il raconte un tas d'histoires. Et pour l'auteur suisse, Catherine Gaillard-Saron, il est le gardien du chemin. Il lui a inspiré un poème qu'elle dédie à ceux qui voient au-delà des apparences. Muré dans sa gangue de pierre, il se tient au bord du chemin, ouvrant à l'âme buissonnière la porte de son cœur d'airain. Il se dresse altier dans le vent, indifférent aux éléments, offrant au temps qui le façonne de s'incarner dans sa personne. Sur le ciel, en toute saison, il se découpe immémorial, brisant la ligne d'horizon par son armure minérale. Il se tient au bord du chemin, son esprit transcendant la pierre, illuminant de sa lumière celui qui pressent ses desseins. Et dans les heures vespérales, où brasille le feu automnal, il montre aux poètes et aux sages l'infinité de ses visages. Sous l'empyré incandescent, où fleurit la rose des vents, sa présence habite l'espace, animant ses diverses faces. Prêtant ses multiples visages à l'âme éprise de voyage, il est comme autant de rivages où se mêlent rêves et mirages. Immobile au cœur de la vie, sculpté par le vent et la pluie, il veille au bord de ce chemin l'amour qui s'en va vers demain. Sentinelle de l'éternel, posté aux confins du néant, il exerce au-delà du temps sa protection intemporelle. Captif de sa gangue de pierre, comme le poète de ses chimères, il garde avec lui ce chemin que cherchent en vain tant d'êtres humains.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique.
Drôle d'histoire.
Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un
l'autre a cherché à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore.
La nuit, je mens, Alain Bachung. Il est temps de fermer nos livres. Demain vous attendent d'autres histoires contées par Véronique Montel. Ce soir, c'est Jean-Claude Gailly qui était en régie et le choix des chansons a été fait par Stéphanie Jovanovic. Les informations arrivent, suivies de la ligne de cœur avec Alain Maillard. Passez une belle fin de soirée sur la première. Il est 22h.